Bonjour, je suis Diane Giraudon. Bienvenue sur Atypique, le podcast de témoignages sur le parcours scolaire semé d'embûches des profils atypiques. Je vous invite au fil des conversations à découvrir l'histoire de ces enfants qui ne rentrent pas dans les cases qui définissent une scolarité parfaite. Mais est-ce que cocher toutes les cases mène réellement au bonheur? Peut-on s'épanouir lorsque l'on est différent? Faisons tomber ensemble cette injonction de perfection et découvrons comment cheminer vers l'épanouissement et le bien-être à l'école. Dans cet épisode, j'ai eu le grand plaisir de discuter avec Victoire Antoun. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Victoire et Caroline lorsqu'elles m'ont interviewée pour leur podcast Les Bienveillantes. Et c'est elles qui m'ont donné l'envie de me lancer à mon tour dans cette aventure. Je suis donc très heureuse de recevoir Victoire pour ce premier épisode. Elle nous parle de la maladie chronique de son fils Oscar, de son combat pour améliorer le bien-être des enfants à l'hôpital grâce à son association HOPE, et des troubles des apprentissages de son fils, dyslexique et dysorthographique. Le chemin est effectivement semé d'embûches, mais Victoire relativise la situation en nous rappelant qu'Oscar est un jeune comme les autres et que les bons résultats à l'école ne sont pas nécessaires pour s'épanouir dans la vie. Bonne écoute. Bonjour Victoire.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Atypique. Et je voudrais d'abord que tu te présentes et que tu nous présentes ta famille, s'il te plaît.
Alors, je m'appelle Victoire, j'ai 40 ans. J'ai deux enfants, Oscar qui va bientôt avoir 15 ans et Violette qui a 12 ans. Et je suis divorcée de leur papa depuis que ma fille a un an, donc ça fait un bon moment. Et je vis avec mon nouvel amoureux depuis un bon moment maintenant, donc on est une famille recomposée.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des spécificités d'Oscar?
Oui, c'est lui qui pose problème. Donc, Oscar, il a un parcours très atypique. C'est ce qui tombe bien puisque c'est le nom de ton podcast. Mm-hmm. Il a plusieurs petits soucis. D'abord, il a une maladie génétique. Peut-être qu'on en reviendra plus tard. Mm-hmm. Et ensuite, il est dyslexique et dysorthographique. Et donc, voilà, on s'en a aperçu tout de suite, dès la maternelle, en fait.
D'accord.
Donc, voilà, notre parcours depuis 14 ans est fait d'embûches et de rendez-vous divers et variés.
Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur sa maladie chronique?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment ça se passe pour lui au quotidien?
Alors, en fait, c'est une maladie qu'on a découverte quand il était tout petit. Il avait 20 mois. Ça se manifeste un peu comme une très grosse gastro au tout début. Mmh. Je vais te raccourcir parce que sinon ça pourrait durer des heures ce grand parcours, mais en gros ça se manifeste comme une grosse gastro et jusqu'à ce qu'on découvre que finalement c'est une maladie très rare qui s'appelle syndrome hémolytique urémique atypique, qui en fait est une maladie qui vient attaquer les tout petits vaisseaux sanguins. Mmh. Et de ce fait va venir détruire les organes tels que les reins, essentiellement, puis le cœur et le cerveau.
D'accord.
Et c'est une maladie qui est très grave. Et lorsqu'on l'a découverte chez Oscar, donc il avait 20 mois, c'était en 2008, il n'y avait pas de traitement à l'époque. Mmh. Et c'était une maladie qui était mortelle. Donc, je te laisse imaginer dans quel état j'étais lorsque j'ai eu le diagnostic.
J'imagine.
Sauf que, bon, il y avait un traitement pour le maintenir, donc on s'accrochait là-dessus. Et 4 ans plus tard, il a rechuté de D'accord. façon beaucoup plus grave. Et bon, c'était une mauvaise nouvelle, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, la recherche a avancé
oui.
et qu'il y avait un traitement qui est arrivé entre-temps des États-Unis. On m'a proposé de lui administrer ce traitement, mais qui n'était pas encore arrivé en France. Donc là, on rentre dans un protocole où on doit signer une décharge monstrueuse. Il y a genre 50 feuilles à signer
oui.
pour autoriser son fils à avoir ce traitement parce qu'en fait, il rentre vraiment dans de l'expérimental et il devient cobaye. Donc, je pouvais le refuser.
Et à ce moment-là, voilà, pour toi, c'était une évidence.
Bah, bien sûr, parce que c'était ça où malheureusement, l'issue pouvait être fatale. Donc, on a injecté ce traitement à Oscar, qui était, je crois, le 5e enfant en France à faire ce test.
D'accord.
Et ça a été très fructueux. Tout s'est très bien passé. Et depuis, il a ce traitement qu'on lui injecte par intraveineuse, donc c'est une perfusion. Mm-hmm. Alors au départ, c'était tous les jours, après ça a été toutes les semaines, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, et maintenant on est à toutes les 3 semaines.
D'accord. Et lui, comment il le vit? Est-ce que vous en parlez régulièrement? Est-ce que c'est devenu naturel pour
oui,
lui?
Oui, parce que comme Par exemple, tout à l'heure, il a son injection. Tu vois, je te laisse et je retourne à la maison. Maintenant, on vient lui faire à la maison. Au départ, on allait à l'hôpital. Donc, on était très familier avec le monde de l'hôpital. Ça a duré 5 ans comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Oscar en avait vraiment marre d'aller à l'hôpital parce que ça prenait l'après-midi. J'ai fait des pieds et des mains auprès des médecins en disant que ce n'était pas possible et qu'on pouvait le faire à la maison. Il suffisait juste d'un pied à perfusion et d'une infirmière. Bon, juste quand même mettre ça en place.
Ouais.
Et finalement, bah, ça a marché. Oscar a été encore le cobaye, le premier enfant à avoir ce traitement à la maison.
D'accord.
Et depuis, l'hôpital vient à la maison toutes les 3 semaines. Voilà. Donc, ça rentre dans notre quotidien, mais ça lui casse les pieds. Par exemple, tout à l'heure, je lui dis « N'oublie pas que tu as ta perfusion cet après-midi. Mmh. » Il va me répondre à un très gros mot pour me dire que ça le saoule. Mais bon, il n'a pas le choix, donc il le fait. Quoi.
D'accord. Et il en parle à l'école ou c'est
pas un
sujet ?
Non, pas du tout. D'accord. Très tabou pour lui.
D'accord.
Donc, ses amis d'enfance, qui étaient, quand il est tombé malade et qu'il était en maternelle, il a dû quitter l'école pendant plus d'un mois. Donc, tous ses amis de maternelle savent qu'il a eu cette maladie, d'accord, puisque ça a été compliqué à ce moment-là.
Oui.
Mais quand il est rentré au collège, on est un peu reparti à zéro.
Oui.
Et on n'en parle pas trop. Alors, ses amis proches le savent, mm-hmm, mais il n'aime pas être mis dans cette catégorie d'enfant malade oui, et avoir cette casquette sur la tête. Et même moi, j'en parle pas. En fait, c'est pas parce que ça me gêne, mais c'est parce que j'ai un enfant qui est normal et je veux pas dire j'ai un enfant malade. En fait.
Et ça n'affecte pas du tout ce rapport à l'école. Il y a aucun problème.
Non.
Sa maladie ne change rien.
L'avantage de cette maladie, c'est qu'elle ne se voit pas du tout. D'accord. Elle est très insidieuse parce qu'elle fait vraiment de gros ravages. Mmh. En revanche, il y a aucun signe extérieur de maladie. Il a rien du tout. Tout est parfaitement normal.
Okay.
Sauf que s'il n'a pas ce traitement, tout son système immunitaire va foutre le camp, en fait, et ça va repartir, en fait.
D'accord.
Donc, voilà, il est dépendant de ce traitement, mais avec ce traitement, tout va bien.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
J'ai su que tu avais créé une association.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait comment on peut aider?
Alors, en fait, comme on allait justement tout le temps à l'hôpital, ouais, comme j'ai fait 2 longs séjours avec Oscar de plus d'un mois, là, ça concerne l'hôpital de Marseille, l'hôpital de la Timone, l'hôpital pour enfants. Je me suis aperçue que cet hôpital était très vieillissant.
Mmh.
Il a été construit en 1974, n'a pas été refait depuis. Donc, bon, c'est tout l'hôpital qui est concerné, mais moi, j'étais en pédiatrie. Et c'est vrai que quand tu as un enfant malade dans cet hôpital qui est clairement très moche et délabré, ouais, c'est difficile. Et pour moi, ce n'était pas normal de soigner ton enfant dans des conditions pareilles.
Ouais.
Donc, j'ai un peu rouspété. Je disais que ce n'était pas normal, etc. Très innocemment, j'ai écrit un post sur Facebook. Ça a commencé comme ça.
Ouais.
En disant, je suis au 17e étage. C'était l'époque. Non, 16e, j'étais. Les murs sont pourris, il faut venir tout repeindre. Mais n'importe quoi, je ne demande même pas l'autorisation à l'hôpital, en fait.
Ouais.
Là, j'ai un copain qui me dit, OK, j'arrive demain. Donc, je vais voir le chef de service. Génial. Je lui dis, écoutez, j'ai un copain qui arrive demain pour repeindre. Il m'a pris pour une folle, en fait.
Ouais.
Non, mais attendez, on demande des autorisations.
Pourquoi
ça ne se passe pas comme ça, bien entendu. Enfin,
bien sûr.
Et j'ai dit, en fait, non, parce qu'il va vraiment venir demain. Donc, il est venu le lendemain.
C'est génial.
Il a parlé avec le chef de service et en fait, bon, il a fallu signer quand même 2-3 documents, mais ça s'est fait.
Ouais.
Et ce chef de service qui s'occupe de mon fils s'est rendu compte que, OK, c'était possible, en fait, de passer outre tout le système de l'assistante publique, même en demandant des autorisations quand même, et qu'on pouvait en tout cas accélérer le processus.
Et améliorer le bien-être des enfants sur place.
Voilà.
Par des petites choses, finalement.
C'est ça. Donc, on s'est associés tous les deux. Deux autres médecins nous ont rejoints et on a créé HOPE. Pour là, du coup, on s'est donc l'étage d'Oscar a été repeint et là, on s'attaque à un autre étage qui est le premier étage,
d'accord,
qui est le service des consultations pédiatriques. Donc, c'est un petit peu le point central où les enfants viennent en rendez-vous avant d'être dispatchés dans les 17 étages.
Mm-hmm.
Et là, l'idée, c'est de refaire entièrement ce service. On a énormément avancé. Les travaux devraient commencer en 2021.
Et pour aider l'association, on peut faire comment ?
Ben, des dons, tout simplement, financiers sur le site internet hopproject.fr. Il y a tout qui est bien expliqué.
D'accord.
Et si on ne veut pas contribuer de façon financière, si par exemple vous avez une entreprise, j'ai n'importe quoi, de peinture, vous pouvez dire moi j'offre la peinture et là c'est du mécénat d'entreprise.
Super.
Donc là pareil, on peut nous contacter via le site. Même
d'accord,
si on a bien avancé sur le projet, tous les dons sont encore les bienvenus.
D'accord, parfait. Donc, j'ai cru comprendre que Oscar avait quelques difficultés au niveau
des
apprentissages également.
Tout est facile.
C'est ça, c'est simple. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors en fait, ça a commencé très tôt, en petite section. En fait, on s'est aperçu qu'il avait un très gros retard de langage.
On est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec la maladie dont on vient de parler à la base.
Aucun lien, on n'a juste pas de bol. Donc, petite section, gros retard de langage.
Oui.
Et alors, c'est vrai qu'on arrive en maternelle quand on est maman, on voit tous les enfants le matin qui parlent, qui disent au revoir, bonne journée à leurs parents, etc. Et malgré tout, même si on nous dit tout le temps, il ne faut pas comparer. On se voit que le nôtre, ben, il ne parle pas du tout en fait.
Oui, mais alors ça, je voudrais quand même mettre un bémol parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne parlent pas avant
la section,
en petite section, c'est certain, mais avant l'entrée en grande section, voire certains au CP.
Ouais, mais là, je le sais, mais là vraiment, il y avait un problème. En fait, je voyais que c'était ni de la timidité, ni du retard. Il y avait un problème dans, je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, bon, tu sais, quand on est maman, on se rend compte. Et là, clairement, il y avait un souci.
Ouais.
Et il ne parlait pas, il ne parlait pas. Ça a mis beaucoup de temps. On était allé voir, je ne sais plus trop à l'époque, parce que bon, ça fait quand même plus de 14 ans. Mmh. Je ne sais plus si c'était un psy ou un orthophoniste. Mais ça m'avait semblé dingue parce qu'il ne parlait pas. Je ne savais pas ce qu'il pouvait raconter.
Oui.
Mais bon, apparemment, c'était possible.
D'accord.
Et là, on a commencé à me dire qu'il y avait effectivement un retard. On lui a fait des tests. Je ne sais plus si c'était... ça commence vraiment à remonter. Je suis désolée, mais 14 ans, déjà, ça fait trop loin.
C'est sûr.
Bref, des tests...
C'est bien, t'as oublié.
Ouais, non, mais c'est pour te dire, tu vois, on oublie. On lui a fait des tests de... peut-être psychomoteur ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'était normal. C'est pas possible.
Ouais, j'aime pas trop mon nom.
Donc, moi, j'ai appris la méthode syllabique enfant et je trouve qu'elle est très bonne. Et la globale, en fait, ça a été une catastrophe.
Ouais.
Et donc,
il devait apprendre finalement par cœur des
il
mots.
Il devait apprendre par cœur. Voilà, donc genre il voyait le mot banane, il fallait reconnaître le mot banane.
Ouais.
Et s'il y avait à côté le mot, je sais pas moi, bandana, qui peut ressembler, il allait dire banane en fait.
D'accord, okay.
Et plutôt que d'apprendre banane, oui, voilà.
Okay.
Et pour lui, je pense que pour les enfants qui ont des problèmes, ça c'est juste une catastrophe en fait. Donc ça a commencé comme ça. Donc moi à la maison, j'avais acheté le cahier que j'avais quand j'étais toute petite. Je me rappelle plus comment ça s'appelait.
La méthode Becher, non ?
Vintage, ouais, c'est
ouais,
ça.
Blanche et rouge.
Ouais, c'est ça. Avec la petite fille, le petit garçon qui cueille des pommes, je sais plus.
Exactement.
Et donc là, on décortiquait les mots. Donc je reprenais tout moi à la maison.
Ouais.
Et puis dans le passage à l'écrit, on a des toutes petites interlignes au CP. Et là, il écrivait jamais sur la bonne ligne.
Mmh,
il prenait trois interlignes au lieu d'une. Enfin, c'était catastrophique l'écriture, quoi.
D'accord. Et par rapport aux autres, la maîtresse te disait quelque chose ou c'était toi
non,
qui
elle me disait
que
ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là, déjà que moi j'étais inquiète, elle m'en rajoutait une deuxième couche en fait. Donc j'avais l'impression d'avoir un demeuré, quoi, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on t'encourage pas du tout.
Je comprends l'effet que ça peut faire. Ouais.
Donc voilà. Donc là, retour chez l'orthophoniste.
D'accord.
Qui me dit effectivement, il y a un problème. Bon, je m'étais doutée. Mm-hmm. Mais il a fait à partir de ce moment-là, donc du CP au CM2, de l'orthophonie toutes les semaines.
Ok.
Dans toute sa scolarité.
D'accord, tu as vu une évolution ?
Alors, on a réussi, on va dire, à sauver les meubles.
D'accord.
Sauf qu'on ne m'a jamais posé de diagnostic. On ne m'a jamais dit, il est dyslexique, dysorthographique. J'ai dû voir 4 ou 5 orthophonistes. Mm-hmm. Et pour moi, c'était clair qu'il l'était. Je ne sais pas pourquoi.
On te disait quoi ? Comment ça se passait ?
On me disait, il frôle la moyenne, il frôle le truc, mais je ne veux pas poser le diagnostic. Mm. Je ne sais pas comment sont faites les évaluations. Enfin bref, où j'ai peut-être pas moi vu les bonnes orthophonistes. Mm-hmm. Mais toujours est-il que comme on ne m'a jamais posé ce diagnostic, à l'école, les maîtresses me disaient, il est dysorthographique ou dyslexique. Je disais, ben non, on m'a dit que non. Mmh. Et donc, comme on le considérait comme un enfant qui ne l'était pas, il était noté comme un enfant normal. Enfin, normal
il n'y avait pas d'aménagement, il n'y avait rien.
Voilà, il
n'y
avait pas d'aménagement.
Lui.
Sauf qu'il n'allait vraiment pas bien et je savais qu'il y avait un souci, en fait.
D'accord.
En sachant qu'il avait cette double peine de cette maladie, je passais beaucoup de temps et à l'hôpital et chez les orthophonistes.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'il était clairement saoulé et en saturation totale. Et je n'ai pas non plus poussé le truc à aller faire d'autres rendez-vous parce qu'on passait notre vie chez les médecins.
Et puis on te disait que non, finalement.
Et on me disait que non.
Parce que tu allais voir des gens.
Oui, oui, mais j'aurais pu pousser, changer plus d'orthophonistes, aller voir une psychomotricienne que j'avais jamais fait,
par
exemple.
On a toujours l'impression qu'on pourrait faire toujours plus, mais au final...
mais je ne pouvais pas parce que j'avais un enfant en saturation à côté de ça pour d'autres raisons. Donc bon, il continuait ses petites séances et à l'école, on essayait de sauver les meubles.
Alors justement, est-ce que tu peux me dire comment ça se passait à l'école, comment il se sentait en classe et
Lui, il se sentait très bien.
D'accord.
Il s'en fichait complètement d'avoir des mauvaises notes. Franchement, pour ça, il a toujours été super bien dans ses pompes.
Il ne s'est pas senti en marge
Non, jamais. Par contre, dans l'école primaire où il était, il y avait anglais.
Ouais, voilà.
Initiation à l'anglais. Et là, nous, on était en très grosse galère en français, mais d'accord. vraiment genre en grosse galère.
Okay.
Et quand est arrivé l'anglais, je me suis dit, mais en fait, il va jamais y arriver. Et là, l'anglais, c'était du chinois pour lui. C'était impossible.
Je vois très bien.
Ne serait-ce que dire, je m'appelle Oscar, c'était pas possible.
D'accord.
Du coup, ce que j'ai fait, et c'est vrai que c'est ma faute, mais maintenant, on me dit que j'ai pas eu tort, c'est que j'ai dit, OK, on va laisser tomber l'anglais et on va vraiment se focaliser sur le français parce que c'était l'urgence.
D'accord, très bien.
Donc, l'anglais, il faisait clairement pas les exercices, donc il avait que des zéros. Et honnêtement, je m'en fiche. Parce que moi je mettais le paquet sur le français.
Très bien.
Il y avait trop de difficultés en français et l'anglais ça l'a complètement embrouillé en fait.
Oui, donc, c'était trop, il y avait voilà. trop de choses.
J'ai dit ok, l'anglais, arrête, on va le mettre de côté.
Okay.
Mais sauf que lorsqu'il est arrivé en sixième,
ah oui. Là, l'anglais ça devenait important.
Horrible. Il était clairement en retard.
Ok.
Mais on avait quand même réussi à sauver le truc en français quoi.
D'accord.
Bon, alors il était vraiment en retard, hein, mais ça allait. Et du coup, bon, l'anglais, une catastrophe. Donc, gros retard en anglais.
D'accord. Alors, donc pour revenir sur l'école, tu me disais que lui, bon, il s'en fichait. D'ailleurs, à mon avis, ça ne devait pas être le seul. Hein, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Et arrivé au sixième, d'un coup, il y a un décalage. Tu sens qu'il y a un décalage et tu sens qu'il faut faire quelque chose d'autre ?
Oui. Bah là, on a pris des cours de soutien en anglais.
D'accord.
J'ai lui fait faire un voyage... pour apprendre à parler l'anglais, sauf que ça n'a servi à rien, parce que tout le monde te dit oui, il faut les envoyer à l'étranger, sauf que toi, je t'envoie en Chine, tu ne vas pas parler chinois en 15 jours, en fait.
Tu peux commencer par regarder des films en anglais, peut-être.
C'est ça. Non, mais en fait, mais même ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'un enfant est dyslexique, à l'époque, le diagnostic n'était pas posé encore en 6e, tu peux l'envoyer n'importe où, on te dit ouais, les langues, c'est facile, mais pour ces enfants-là, non, c'est pas
difficile,
facile, en fait.
Bien sûr.
Donc, il ne suffit pas de partir en Angleterre.
D'accord.
C'est vraiment compliqué.
Et au niveau des devoirs à la maison, comment ça se passait ?
Bah, c'est l'horreur. Donc, que des cours de soutien, plus...
Toi, tu as laissé tomber, du coup, tu ne les faisais plus faire ?
Non, mais pas du tout. Ça a été horrible. Non, pas du tout.
Non, parce que c'est important de comprendre que les devoirs à la maison sont difficiles pour la plupart des parents qui ont des enfants.
Ah, mais c'est une corvée, c'est une punition, même déjà c'est horrible. Ah non, mais oui. Non, mais là, c'est-à-dire que tu refais tous les devoirs.
Ouais.
Et ne serait-ce, déjà, il faut déchiffrer ce qu'il a écrit, parce que moi, j'ai un gros problème d'écriture.
D'accord.
Et en plus, comme je suis très sévère, ce que je lui faisais, je lui fais toujours attention, c'est horrible.
D'accord.
Je déchire les feuilles quand c'est mal écrit et je dis tu recopies tout.
Ah oui.
Ouais.
Même s'il a un souci à la base
dans l'écriture. En fait, je veux pas qu'il se dise ok, j'ai un souci, c'est
donc
comme ça.
Donc je laisse tomber. Voilà.
Donc et je considère et à la maison, il a tout le temps. Je dis ok, en classe, t'as la pression. Maintenant, ils prennent des notes au collège. Ok, t'as dû aller vite. T'as fait tout. Je comprends. Mm-hmm. Mais là, t'es à la maison, t'as tout ton temps. Donc d'accord. Tu vas tout recopier.
Ah, ça devait être sympa les moments de devoir à la maison.
Mais je continue. Hein, et je l'ai encore fait il y a 3 jours.
D'accord.
Mais ça marche. En fait, quand il est à la maison, qu'il est tranquille et qu'il n'y a pas de pression. Eh
bien,
il faut bien qu'il apprenne à écrire quand même. Donc,
oui, d'accord.
Donc voilà.
Après, les médecins ne savent pas écrire.
Non,
ils écrivent
c'est
très
vrai.
Mal et ça passe
mais
très bien.
Lui, vraiment, on a un gros souci dans le passage à l'écriture. Donc
d'accord.
On a fait 6e, 5e, 4e comme ça. Est arrivé l'espagnol, là je t'en parle même pas. Donc on ne s'en sortait pas en anglais, arrive l'espagnol. Et les langues, mais horribles.
D'accord.
On essaye à peu près en français d'y arriver, mais les langues, horribles.
Okay.
Et donc l'année dernière, en 4e. J'ai dit non, mais là, il y a un gros souci. Les profs, là, arrêtent pas de me dire.
Mais parce qu'ils te disaient quoi, les profs ?
Bah là, en quatrième, ils disent, mais voyez pas que ça va pas, en fait.
Oui.
Ils refusent de le corriger, c'est illisible. Il y a des fautes d'orthographe à tous les mots. C'est-à-dire qu'Oscar fait une dictée, il a 0 sur 20 tout le temps.
Alors, les profs refusent de le corriger ?
Quand c'est trop mal écrit, oui, bah oui, c'est illisible. Je peux les comprendre, hein, c'est illisible.
Ok.
Et lorsqu'il y arrive, que des zéros en dictée.
Donc, tu n'as jamais rencontré, ni en primaire, ni au collège, des enseignants ou des classes où il y avait des aménagements faits pour des enfants qui avaient des difficultés ?
Oui, alors en primaire, il avait les AP, comment on appelle ça ?
Les APC.
Les APC, tout le temps, ça,
ouais.
Ok.
Donc, c'est le soutien.
Voilà, c'est du soutien. Et au collège, on me disait juste, il y a un problème, vous ne le voyez pas, en fait. On me
d'accord.
prenait pour une maman.
Oui,
et en fait, voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'en CM2, on a arrêté l'orthophonie parce qu'il était... En grosse saturation, on avait la maladie à côté. J'ai dit, OK, il en a ras-le-bol.
D'accord.
On va arrêter.
On fait une pause.
Tout le monde me dit qu'il est normal. Donc, ben voilà, il vient de se faire 5-6 ans d'orthophonie.
Ouais. Oui.
On va arrêter.
OK.
Donc, au collège, chez moi qui fait l'orthophoniste, le soutien. Sauf qu'en quatrième, on m'a dit qu'il y avait un gros problème.
D'accord.
Donc là, c'est reparti. J'ai pris rendez-vous avec une psychomotricienne et une orthophoniste.
Ouais.
La psychomotricienne m'a dit qu'il y avait un gros problème, ce qui effectivement... justifier le problème d'écriture.
D'accord.
Et l'orthophoniste m'a dit, non mais attendez, votre fils est complètement dyslexique et dysorthographique avec son barème, elle, d'orthophoniste.
Oui.
Donc j'ai vu clairement
d'accord.
avec des chiffres. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, on n'a peut-être pas vu les bonnes personnes.
Peut-être que ça avait évolué aussi.
Ouais, je ne sais pas. Donc là, enfin, j'étais limite trop contente.
Super. Oui, d'avoir enfin un diagnostic posé.
C'est génial, il est dyslexique et dysorthographique, c'est trop bien.
Ça, je comprends. On a envie de savoir et de poser un diagnostic et de pouvoir avancer avec ça.
C'est
fait.
Ça.
Du coup, qu'est-ce que vous avez
donc
mis
là,
en place ?
Donc là, j'ai rappelé le collège Et là, on a mis en place un PAP pour la troisième parce qu'elle brevet.
Alors, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un PAP?
En fait, par exemple, lui, si on lui fait une dictée, il va avoir peut-être 5 phrases en moins.
C'est ça, voilà.
Ou il aura peut-être 10 minutes de plus pour faire une évaluation. Mmh. Tout est aménagé
en fonction du trouble pour pouvoir lui laisser plus de temps.
Voilà.
Ou lui raccourcir
les exercices. Quoi.
D'accord, ok.
Donc, je suis trop contente. Et lui, il est trop content aussi. Donc,
tu as vu la différence
Non, on commence. Il n'a même pas eu d'éval encore. Là, tu vois, on est au mois de septembre.
D'accord.
Mais c'est pour cette année. C'est pour cette année.
OK.
Mais bon, voilà, il faut que tu justifies. Donc, bilan d'orthophonie, bilan psychomotricienne. Tu dois envoyer des pages d'écriture de ton enfant pour prouver qu'effectivement, il n'écrit pas bien. Tu dois envoyer des précédentes évaluations, des notes des profs. Enfin, voilà, il y a tout un dossier.
C'est intéressant de savoir quel est le dossier à monter. Ouais. Pour les parents qui ont des difficultés,
tu as été aidé par tout ça. Ensuite, c'est envoyé au médecin scolaire, qui valide. Ok, il y a un souci. Ensuite, ça retourne au collège, et là, on dit ok, c'est bon, on peut mettre en place un PAP.
D'accord. Donc, maintenant que tu as le PAP, à part pendant les évaluations, il y a des temps pour lui qui sont adaptés dans la classe.
Non, juste pour les évaluations. Mais ils sont plus indulgents, certes.
Du coup, par rapport à cette spécificité qu'il a, est-ce que tu as l'impression qu'il a développé d'autres choses
Oui, alors il est extrêmement mature, mais ça, ce n'est pas dû à sa dysorthographie, c'est dû à sa maladie, en fait.
D'accord.
Donc, il a vraiment énormément grandi dans sa tête. Et moi qui vois beaucoup d'enfants malades, parce que j'ai beaucoup traîné à l'hôpital, c'est le cas de tous les enfants malades. En fait, ils ont un regard sur la vie qui est extrêmement différent des autres enfants. Sa petite sœur n'est pas du tout comme ça. Elle est complètement naïve et c'est normal. Et c'est son âge, en fait.
Ouais.
Mais lui, pas du tout, en fait. Il a beaucoup plus de... comment dire, de sérieux et de gravité, en fait. Il voit les choses vraiment telles qu'elles sont. Il a un regard sur la vie, sur la maladie. Il a développé une très grande maturité.
Ouais.
Et à l'école, par exemple, il est très fort en tout ce qui est dissertation. Alors, il fait des fautes à tous les mots, mais il peut te faire une dissertation de 10 pages. Il va être très inspiré sur un sujet.
Beaucoup d'imagination.
Oui, et puis même la dernière fois, je ne sais pas, il a eu une évaluation, c'était un discours. Il fallait commenter le discours d'un homme, je ne sais plus de quoi il parlait, cet homme-là.
D'accord.
Et en fait, dans ce discours, il parlait des hommes et des femmes. Et mon fils a été choqué parce qu'il trouvait que son discours n'était pas du tout juste envers la parité des femmes. Donc, en fait, il était
grand
à côté de
justice.
La plaque dans l'évaluation. Ouais. Il a fait 10 pages sur la parité homme-femme.
C'est génial.
Donc, voilà. Alors, la maîtresse a mis, enfin, la prof, c'était en quatrième, hors sujet, mais je te mets 18 parce que c'est très juste ce que tu dis, en fait.
C'est génial.
Donc, voilà.
Donc, il affirme sa personnalité.
Ouais.
D'accord, ok. Super. Quelles sont ces sources d'épanouissement? Parce qu'on a souvent tendance à taper sur le fait qu'il ait des difficultés, que c'est difficile, que pour les devoirs c'est compliqué, que l'école parfois c'est pas facile. Et donc c'est hyper important de valoriser ces enfants qui ont des difficultés à l'école. Comment tu peux le valoriser? Quelles sont ces sources d'épanouissement? Qu'est-ce qui peut le sortir un peu de ses troubles et de ses difficultés?
Voilà, c'est des trucs d'ado. Hein. C'est juste quand il fait son sport, quand il voit ses copains. Enfin, il n'y a pas de... je vois pas trop...
Est-ce que toi, tu essaies de le valoriser un peu sur d'autres choses ou finalement, pour toi, c'est normal?
Non, moi, je veux pas... je le considère comme un enfant normal. Alors, je le valorise quand il y a besoin de valoriser, oui.
Mais t'en fais pas plus.
Mais c'est pas parce qu'il est dysorthographique que je dis « Ah, oh, c'est génial, tu as fait ça ». Enfin, je... voilà.
D'accord, ok.
Et je continue à être sévère quand il fait des fautes d'orthographe, même si
mais
je sais...
j'ai l'impression.
Ah oui, même si je sais qu'il est... Parce que je... j'ai pas envie de lui dire ok, t'es dyslexique, t'as un PAP, donc c'est cool, c'est pas grave, je dis
donc
plus rien en fait. Je veux quand même le pousser.
Ouais, d'accord.
Et après, c'est vrai qu'il y a une très grosse pression scolaire, et ça, c'est certain.
Ouais.
Et que quand ton enfant ne rentre pas dans les cases, on te le fait clairement ressentir, quoi. Et c'est tout le temps comme ça. J'ai un prof d'anglais l'année dernière qui m'a dit « Mais attendez, là, c'est extrêmement grave, c'est alarmant. Enfin, »
Extrêmement grave.
Oui, donc on dirait que oh là là, sa vie est en jeu, quoi, en fait. Et même lorsque j'ai voulu l'inscrire en sixième, il était en CM2, c'était dans des écoles privées, t'envoies son dossier dans plusieurs établissements. Ouais. Et moi, j'étais très transparente. J'ai donné les notes d'Oscar. J'ai dit, il est en difficulté, il voit une orthophonie. Et j'ai eu une réponse d'un collège de Marseille qui m'a dit, votre fils ne rentre pas dans les critères de notre établissement.
D'accord.
Donc, je trouve ça très violent quand même. C'est-à-dire que si ton enfant ne rentre pas dans les cases du collège, il n'est pas accepté en fait.
Mais c'est ça, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, c'est que je trouve que, comme on disait tout à l'heure, que la norme, elle est dans le fait que les enfants réussissent, que les enfants sont bons à l'école, que tout va bien.
tout va bien, je vais bien. C'est ça. Alors qu'au final, moi, ce que je vois dans mon métier et autour de moi, c'est que la norme, c'est que les enfants ont souvent des difficultés, que les devoirs, c'est compliqué, que tout le monde n'est pas parfait. Et je trouve ça super difficile en tant que parent de se rendre compte que ben, si ton enfant a des difficultés, t'es un peu stigmatisé, quoi.
C'est ça, absolument. Et puis, il y a ce nouveau truc. On n'avait pas ça, nous, quand on était jeunes. Mais maintenant, tu as toutes les notes de tes enfants sur des...
Ah oui, livret-val.
Voilà. Donc, moi, j'ai deux collèges différents. Donc, j'ai école directe pour l'une et je ne sais plus quoi sur mon fils. Ouais. Et donc, du coup, tu as des alertes toute la journée. Toi, quand tu bosses, tu es à ton bureau sur les notes qui viennent d'arriver. Donc, tu sais, pendant que tu travailles, que bim, ton fils, il a 8 sur 20. Donc déjà, ça te tend quand tu es à ton travail, ça t'avait pas ça avant. Tu rentres à la maison, la première chose que tu fais, c'est de lui dire « Ah, mais t'as eu que 8 !» Et du coup, tu as cette espèce de pression de notes maintenant qu'on n'avait pas forcément avant, ou parfois nous, on cachait nos notes à nos parents. Bon, ok,
mais je rentrais pour récupérer mon carnet.
Voilà, on a tous fait ça. Mais là, c'est fini. Maintenant, les parents savent en temps réel la note qu'a ton enfant. Tu sais s'il a une observe en temps réel aussi. Moi, je le sais tout de suite, c'est affiché.
C'est bien ça quand même.
Voilà, et en fait, ce système de logiciel, d'application, ça te met effectivement une grande transparence. Mmh. Ton enfant ne peut plus te mentir.
Mais ça met beaucoup de pression.
Mais en même temps, ça met énormément de pression. Mmh. Et on est tous là, chacun, à notre boulot, à recevoir les notes de nos enfants. Et même entre parents, je vois les mamans qui se
comparer.
Disent... Ah là là, mon fils a eu 18, mon fils a eu 17. Et toi, tu te dis, mais mince, mais moi, le mien, il a eu 9, tu vois.
C'est ça.
Et voilà. Et
oui,
c'est...
mais justement, est-ce que tu relativises pas un petit peu par rapport à ça?
Oui, moi, complètement. Parce que j'arrive à prendre énormément de recul, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est une grosse pression en permanence, en fait.
Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents pour la maison ou pour l'école? Qu'est-ce que tu as appris, toi, dans ton parcours, dans ton expérience?
Moi, si tu veux, j'ai eu tellement, tellement d'embûches à tout point de vue que, honnêtement, là, j'ai appris à me détendre vraiment parce que sinon, clairement, je... Non, c'était pas possible. Là. Tout ce qu'on a traversé avec Oscar, il y a de quoi péter un plomb.
Ouais.
Donc, je me suis bien détendue là-dessus. Juste, c'est vrai que urgemment, c'est de diagnostiquer les enfants, ça c'est sûr. Moi, j'ai perdu du temps et quand on est parent, on voit quand il y a un problème. Moi, je savais qu'Oscar était dyslexique et dysorthographique, même si j'avais des orthophonistes de qualité sans doute qui m'ont dit non, mais j'aurais dû changer.
Donc, tu penses que tu regrettes de ne pas être allé chercher plus loin?
Oui, d'avoir perdu du temps.
D'accord. Okay.
Même s'il a fait ses séances comme il fallait, mais on aurait dû poser un autre diagnostic bien plus tôt pour Oscar, en fait.
D'accord, donc insister.
Oui, insister quand on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème, en fait.
D'accord,
oui. Donc ça, oui. Et après, par contre, oui, se détendre à la maison. Et moi, je ne suis pas à la course aux 18, ça, j'ai vraiment lâché l'affaire.
Mais tu arraches quand même les feuilles.
J'arrache quand même les feuilles. Mais voilà, là, il se pose la question. Là, je vais l'inscrire au lycée pour l'année prochaine. C'est maintenant. Je vais proposer à Oscar d'aller dans un lycée même technique. Je lui dis, si t'es pas fait pour un... Je m'en fous, moi. J'ai aucun problème d'égo là-dessus de dire mon fils va faire un bac scientifique. Ou
au contraire. Parce que du coup, ça va l'orienter.
Je veux juste qu'il aille dans un endroit où il se sente bien et où il se sente valorisé. C'est le plus important. Et je vois trop de parents. J'ai des exemples très, très proches de moi dans ma famille même où on veut absolument que son fils fasse un bac scientifique parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est très valorisant en tant que parent.
Mais ça, c'était plutôt à notre époque, je trouve.
Sauf que le gamin va se planter complètement, en fait, parce qu'il n'est pas fait pour ça, en fait.
Bien sûr.
Donc, il faut juste diriger son enfant vers ce qui est bon pour lui.
Et justement, tu me parlais de ta famille. Est-ce que tu as l'impression qu'on te juge parfois par rapport à l'éducation?
Non, alors moi, je suis dans une famille assez baba cool, en fait.
D'accord.
Et l'école, ce n'est pas la priorité chez moi. Alors, j'ai beaucoup de chance.
Très bien.
Moi, pour te donner un exemple, quand j'étais petite, ma mère n'a jamais regardé mes bulletins. Donc, c'est moi qui les ouvrais. Elle s'en fichait.
Ouais.
Et elle n'allait pas à mes conseils de classe. Enfin, à l'époque, il fallait y aller aux réunions. Elle n'en avait rien à faire. J'étais complètement free.
Ce qui ne t'a pas empêché de réussir?
Non, voilà. Et au contraire, même, j'avais tellement l'impression d'avoir une maman qui s'en fiche que. J'étais super sérieuse, en fait.
D'accord.
Et l'école n'a jamais été un souci dans ma famille. Je voulais faire des études de stylisme.
Ouais.
Et on m'a complètement poussée là-dedans. T'aimes dessiner, mais dessine ma fille, c'est génial. Moi, j'ai été élevée comme ça.
C'est ça que je te disais tout à l'heure, dans le fait de valoriser ses enfants dans d'autres domaines.
Ouais, exactement.
Quand on voit, voilà.
Donc, moi, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et limite, moi, je suis beaucoup plus sévère avec mes enfants que ce que l'ont été mes parents.
D'accord.
Qui, pour eux, leur seul but était que je sois heureuse, en fait. Et donc, du coup, mes parents, même trouve que je suis trop sévère avec mon fils et que tu vois.
D'accord.
Mais voilà, j'ai pas eu cette éducation de c'est la course à la bonne note, au diplôme, aux grandes études. Voilà, j'ai pas reçu cette éducation là, donc c'est pas ce que je fais pour mes enfants. Et même typiquement pendant le confinement, tu vois, là, ça a été compliqué. J'ai vu beaucoup de parents qui se sont pris la tête pour pouvoir maintenir les enfants dans un système scolaire, à les faire travailler de 8h du matin à 17h.
Alors que c'est clairement pas possible.
Alors que c'est pas possible, ils se sont arrachés les cheveux, eux-mêmes ils se sont pourris leur journée, donc du coup tension à la maison, et puis nous on n'est pas prof.
Comment ça s'est passé pour toi pendant le confinement ?
Donc moi, il faisait ses trucs tout seul le matin, il travaillait que le matin, je D'accord. le dis clairement. L'après-midi, il était free total, mais en revanche, il a fait tout, lui c'était des rendez-vous sur Zoom,
ouais.
il a fait tous ses rendez-vous, alors que parfois ils étaient que 4 ou 5 sur une classe de 30, tu vois, donc il y avait des enfants clairement en décrochage.
D'accord.
Mais lui, il a jamais lâché, il a fait tous ses trucs. On faisait des exos de temps en temps, mais en mode cool, tu vois.
Ouais.
Et au final, le bulletin du troisième trimestre, qui était un bulletin Covid, hein, qui était un peu particulier, on lui a dit, mais Oscar, c'est un super engagement ce que tu as fait à la maison.
C'est génial.
Et on a appris autre chose. On a regardé des films, on a lu des bouquins, on s'est intéressé à plein de choses, on a fait des activités manuelles à la maison.
C'est ça. Et ça, ça fait un peu relâcher la pression sur les études pures.
Et les enfants ont appris d'autres choses pendant cette période de confinement.
On ne s'épanouit pas que par
non.
ce qu'on apprend à l'école, en fait. Tout ce qu'on apprend autour, ça nous fait évoluer.
Ouais. Moi, je lui ai fait faire une liste à la fin du confinement de gratitude.
Ouais.
Et je lui dis, voilà, tu vas faire une liste de toutes les choses positives que tu as
appris pendant ce confinement.
Pendant ce confinement. Génial. Et en fait, il a pris un papier, un stylo, il disait, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Et d'un coup, c'est arrivé.
Ouais.
Et il a pris une feuille A4, recto verso.
Génial.
Donc, il s'arrêtait plus d'écrire, en fait. Et il D'accord. a découvert... Il s'est dit à la fin, mais waouh, en fait, c'était super positif.
Ouais, il est sorti grandi de cette expérience.
Ouais, il a fait plein de choses trop géniales. Il s'est mis dans les puzzles, par exemple, à faire des puzzles de 2000, 3000 pièces. Il s'est éclaté. Enfin, voilà, et on découvre d'autres choses, en fait.
Et on apprend énormément aussi par le jeu, justement, parce que là, tu parles de Pulse, mais par les activités manuelles aussi. On apprend beaucoup de choses. Mm. Donc, il n'y a pas forcément que l'apprentissage classique français-maths.
Donc, moi, je dirais aux parents de ne pas trop se mettre la pression, en fait.
Tu ne l'as pas mis sur l'ordi ? Pour faire ses devoirs, ça
Oui, il était sur l'ordi, oui.
Mais en classe, ça n'est pas arrivé
encore.
Ils
ont une tablette en classe.
Ils ont une tablette en classe et ça n'aide pas.
Oui, pour lui, ça c'est très bien. T'as la correction automatique, si tu parles, c'est génial.
Donc pour les parents qui l'ont, oui, ça c'est certain. Pour les parents qui l'ont pas encore en classe, à la maison, ça peut être une idée pour les enfants.
C'est pas mal, ouais, effectivement. Mais en revanche, je pense que faut pas oublier l'écriture parce que maintenant c'est la nouvelle génération, ils passent leur
vie. Ils écrivent de moins en moins.
Voilà, les textos, etc. Ils écrivent plus.
Ouais.
Et je pense que clairement le niveau en orthographe, même sur des enfants qui ont pas de 10, mais il a vraiment baissé maintenant.
C'est certain.
Je pense que c'est important de continuer à écrire quand même.
D'accord. Je vais te demander maintenant ce que Oscar veut faire plus tard. Il le sait, il le sait pas.
Alors,
il y pense ou pas du tout ?
Oui, si, il te dit qu'il veut faire des affaires.
D'accord, très bien. C'est un bon début.
Voilà, il veut être un homme d'affaires.
D'accord.
Donc, il sait pas trop, il veut faire du commerce.
Ouais.
Donc, voilà, il dit, moi, je veux faire des affaires, machin.
J'adore. Ok, bah, c'est très bien, c'est un bon début. En
donc,
tout cas,
a priori, il se dirigera vers une école de commerce. Mais écoute, on verra.
Et justement, pour terminer, en sophrologie, on se concentre sur ce vers quoi on a envie d'aller pour tendre vers ça. Donc, qu'est-ce que tu souhaites, Oscar, pour le futur ?
Moi, je souhaite juste qu'il soit heureux et bien dans sa peau, parce que il a traversé des moments vraiment difficiles.
Ouais.
Et j'aimerais qu'il arrive. Déjà, je pense que c'est le cas, mais à vivre avec ses bagages, en fait,
ouais.
et d'en trouver même des richesses, en fait. Même s'il est différent, qu'il s'en fasse quelque chose de, qu'il en fasse quelque chose de plus fort, comme comme son trésor, et que ça le fasse juste grandir, et qu'il s'accepte comme ça, et qu'il soit heureux, juste. Voilà.
D'accord. Merci, Victoire.
Merci à toi.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette conversation. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela donnera plus de visibilité à nos conversations. Si vous ou votre enfant avez un profil atypique et que vous souhaitez partager votre expérience, racontez-moi votre histoire par mail sur atypiquepodcast@gmail.com. Vous retrouverez toutes les infos dans les notes de l'émission. À très bientôt.